Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.
Interview de Magali Deleuil, astrophysicienne, spécialiste des systèmes planétaires, troisième partie.
Les étoiles ne sont jamais rocheuses,
oui, d'accord,
vous oubliez
vous avez
ça,
raison.
C'est toujours gazeux.
C'est tout, voilà.
Mais
toujours
vous
gazeux.
Pouvez connaître la taille du cœur, vous pouvez connaître, voilà, c'est des informations...
La nature du gaz peut-être même à l'intérieur.
Non, parce
non,
que
même
ça,
pas.
Disons qu'on mesure en surface, ça,
en surface.
Par d'autres techniques. Mais ouais. Ça vous permet de connaître la structure interne, la taille du cœur radiatif, la partie convective, des choses comme ça. Ok, ça c'est disons, peut-être un peu technique et bon, on va oui, peut-être pas rentrer dans les détails. Ouais. Il s'avère qu'ils avaient proposé au CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales, qui est notre agence spatiale
oui,
française.
En fait, ouais.
Donc ils avaient répondu à un appel à programme du CNES et ils avaient proposé un instrument qui s'appelait CORO pour convection et rotation. On peut tout dire, hein, c'était vraiment stellaire, qui avait été présélectionné. Et j'ai trois collègues parisiens, qui étaient Jean Schneider, Daniel Rouen et Alain Léger, qui étaient dans le même laboratoire que certains de ces physiciens stellaires, qui se sont dit, ah, mais oui, quand on regarde le descriptif de l'instrument, ce qui est attendu comme performance, ce qu'il va faire comme type de mesure, mais cet instrument, on pourrait l'utiliser aussi pour faire des transits, pour chercher des transits de planètes hors du système solaire, d'exoplanètes. Mmh. Et donc, ils ont convaincu leurs collègues de physique stellaire que ça pouvait être intéressant. On a revu le concept un petit peu de l'instrument de façon à pouvoir faire des transits. Et moi, je suis arrivée là-dedans, en fait.
Donc, vous mesurez les...
Donc, on m'a proposé de participer à la préparation de cet instrument. Mmh. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai contribué à la phase de définition. Alors, il était déjà très, très bien avancé. Hein, mais, enfin, bon, j'ai un petit peu suivi les dernières étapes de la phase de définition. Quand on a après concru, peut être finalement sélectionné, etc., et à la préparation du programme Exoplanète de cet instrument qui est devenu, qui est resté CORO, hein, comme le nom du peintre, mais qui est devenu convection, rotation et transit planétaire. On a récupéré le T
pour la baptiser transit.
Voilà.
D'accord.
Pour dire qu'effectivement, l'instrument avait désormais deux objectifs scientifiques, un qui était la mesure des oscillations stellaires et l'autre qui était la recherche des planètes en transit.
D'accord.
Donc j'ai commencé à travailler en 1996, je pense. Et le tir a eu lieu en 2006, puisqu'on a, fin décembre 2006, puisqu'on a commencé à observer janvier 2007.
Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, il y a eu le développement de cet instrument.
Absolument.
Donc, presque une dizaine d'années alors.
Plus de
10 ans pour le mettre au point, mais bon, ça veut dire que c'est un instrument très sensible. Et à partir de 2007, ça marche.
Alors oui, alors je vous explique aussi pourquoi on a pris 10 ans. C'était une petite mission quand même, hein. C'était pas un gros instrument, mais ce qui a pris du temps, c'est souvent des problèmes politiques, financiers, etc. On a été arrêté deux fois dans la phase de développement. Et donc, initialement, c'était une mission qui était purement française, parce qu'on a été arrêté, parce qu'on nous a jugé trop cher et qu'en tous les cas, il y a eu des choix politiques pour mettre de l'argent ailleurs. Exactement, mais pourquoi pas. Donc on a fait appel à des collègues européens et qui ont accepté, qui étaient intéressés et qui ont accepté de participer, hein, participer financièrement et puis scientifiquement, hein, au développement et à la réalisation de la mission. Et c'est ce qui fait. Et donc CORO est devenu une mission toujours sous leadership français, hein, puisque c'est le CNES qui pilotait, et trois laboratoires français, dont le LESIA à Paris, l'Institut d'astrophysique spatiale de Paris, si je ne me trompe pas sur la signification de l'acronyme, on a tellement l'habitude d'avoir des acronymes, et mon laboratoire à Marseille. Et puis, donc, des laboratoires en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Espagne, moins pour le programme Exoplanète. Donc en 2007, oui, nous avons été le premier instrument à rechercher des exoplanètes depuis l'espace.
Et cette recherche, vous la faites au LAM ou faut systématiquement venir ici?
Non, je travaille dans mon bureau.
De votre bureau.
Ce sont des données spatiales, de toute façon. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne derrière.
L'écran. Voilà.
Les données vont dans les stations sol qui suivent l'instrument. Elles sont envoyées au CNES. Le CNES est ensuite distribué dans les laboratoires. Et nous, on reçoit tout sur un ordinateur. Donc à la limite, je peux même travailler
dans ma voiture,
sur mon ordinateur portable. Ma maison, ou n'importe où. Tant que j'ai mon ordinateur, j'ai les données, je fais les analyses où je veux.
Ah, mais c'est bien ça.
Bah oui et non, parce que parfois, après, on a un peu du mal à savoir où...
Où on s'arrête.
Où on s'arrête, exactement.
Oui, c'est le cas de tous les gens un peu passionnés dans leur métier, savoir où on met la barre entre travail, vie de famille et le reste. Mmh. Ah oui, ça, on connaît tous. D'accord. Et vous avez eu l'occasion dans votre tableau de chasse, vous en avez rajouté des exoplanètes qui n'étaient pas connues, vous en avez identifié?
Mais absolument. Donc actuellement, on a 37 planètes qui ont été identifiées par Kourou. Alors si je vous donne un petit... Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était une mission modeste, hein, c'était une petite mission.
Petite mission.
Ça veut dire qu'en fait, c'était un petit instrument, etc. Et parallèlement, pendant que nous développions Kourou, les Américains, eux, avaient proposé une mission beaucoup plus ambitieuse qui s'appelle Kepler et qui, elle, visait à découvrir les planètes analogues à la Terre. Donc, un an de période orbitale, rocheuse et autour d'étoiles comme le Soleil. Donc, tandis que Kourou, lui, il était fait plutôt pour détecter des planètes à courte période orbitale, un peu comme 51 PEC-B.
D'accord.
Par transit. Et il a fait son job. Donc on a eu la première, ce qu'on appelle Super Terre, la première planète dont le rayon est une fois et demi le rayon de la Terre, à moins d'un jour de période orbitale de son étoile, sur une étoile qui est à peine plus petite que notre Soleil, et pour laquelle on a pu faire les mesures de masse ici, à Saint-Michel Observatoire, un petit peu en partie, et puis dans l'hémisphère sud au Chili avec un spectrographe qui est un petit peu plus performant parce que la masse de la planète était petite, l'étoile était ce qu'on appelle active, elle présentait des variations de lumière
très importantes
qui
perturbaient à ce moment-là la mesure.
Qui gênent les mesures de vitesse radiale. Et donc on a eu la masse et le rayon et on a pu dire que oui, la planète est de nature rocheuse. Donc ça c'est une... Donc on a vu les Jupiters chauds, et on a aussi cette classe nouvelle de super-terres, donc des super-terres très chaudes. On a mesuré le rayon pour la première fois de ce qu'on appelle une naine brune, qui est un objet un peu particulier, intermédiaire entre les planètes géantes et les toutes petites étoiles. Certains disent que ça serait en vérité des superplanètes, en fait. Et donc, nous, on a pu mesurer pour la première fois le rayon d'une de ces naines brunes en transit autour de son étoile à quelques jours de période orbitale. On a mesuré le rayon d'une géante gazeuse qui est à peu près la même orbite autour de son étoile que Mercure. On a une planète autour d'une étoile très jeune. Il y a tout un bestiaire comme ça qui a permis de faire Kourou.
Dans ces planètes qui ont été découvertes, est-ce qu'il y en a qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable? Non. Il y aurait aucune aujourd'hui.
Alors, avec Kourou, non. Je vous disais, en parallèle de nous, 2 ans après le tir de Kourou, la NASA a lancé, donc l'agence spatiale américaine,
a lancé
le satellite Kepler, qui lui était fait pour vraiment...
aller chercher.
Voilà. Donc, alors ça a été la révolution. C'est un instrument qui a bouleversé tout ce qu'on connaît sur les planètes. Parce que là, nous, on a quelques dizaines de planètes pour lesquelles on a fait à la fois les mesures en vitesse radiale, en transit, etc. On les a étudiées en détail et tout ça. Mais eux, ils ont sorti des milliers de candidats. Alors, pourquoi on parle de candidat? C'est qu'en vérité, quand vous détectez un transit de petite taille, de truc qui paraît planétaire, d'origine planétaire, il faut quand même vous assurer que ce n'est pas... ce que vous voyez, ce n'est pas, par exemple, un système stellaire formé avec une toute petite étoile, par exemple, ou qui est très proche, vous avez une étoile double qui est très proche de votre cible, les lumières se mélangent, vous ne les distinguez pas l'une de l'autre, mais en fait, vous avez le signal de votre binaire qui s'additionne en quelque sorte au signal de votre étoile cible. Et vous avez l'impression que vous voyez des transits de planètes, et en vérité, vous ne voyez qu'un signal stellaire.
D'accord, c'est les deux étoiles qui...
Voilà.
qui...
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a un qualificatif de planète candidat. Et ensuite, il y a une phase de vérification et de mesure des paramètres qui est importante, ce qu'on appelle la caractérisation. On veut à la fois le rayon de la planète, mais on veut aussi sa masse, parce qu'on veut connaître sa nature. Donc, on a actuellement, si vous voulez, à peu près, on doit être autour des 4000 planètes pour lesquelles on est, la nature planétaire est...
Et formelle.
On est très confiant sur la nature planétaire. Il y en a peut-être une grosse centaine pour laquelle on a à la fois mesure de... qui ont été détectées par transit, à la fois mesure de masse et de rayon, ou de rayon et de masse en l'occurrence. Et puis les autres, alors, je vous disais, ça a été une révolution. Pourquoi ? Parce que l'instrument est 10 fois plus performant que ce qu'était
Corot. Oui.
Et donc il permet très facilement de détecter de petites planètes. Il a détecté des systèmes de petites planètes, donc qui peuvent aller jusqu'à 7 planètes autour d'une même étoile. Et donc des super-terres, donc des systèmes qu'on dit très compacts, parce qu'elles sont, pouvaient avoir 3, 4 planètes, dont les orbites ont moins de 100 jours. Vous voyez, donc c'est là aussi des systèmes de planètes qui sont différents de notre système solaire.
Oui, vous voyez, bien sûr.
Et il y a donc, à partir du moment où vous avez plusieurs planètes autour d'une même étoile, donc là, vous commencez à être très confiant sur le caractère planétaire de vos détections, en fait. Donc, il a, dans les résultats, je pense, particulièrement remarquables de Kepler, il y a aussi le fait que on a parlé de systèmes binaires, et effectivement, dans notre environnement, il y a beaucoup d'étoiles. La majorité des étoiles ne sont pas isolées, mais parce que les étoiles se forment au sein de grands complexes de gaz et de poussière, elles ne se forment pas seules, souvent. La plupart du temps, elles vont se former en association, mais aussi par paires. Ou par trois, des trucs comme ça. Donc les paires, on appelle ça des étoiles binaires. Mmh. Et donc, c'est deux étoiles qui tournent autour du centre de gravité commun. Donc, on s'était dit... Alors, la question, savoir si la formation planétaire opérait autour des étoiles binaires ou pas, ça, c'est une question qui a fait pas mal de débats dans les conférences et professionnelles, j'entends. Et donc, on ne savait pas, est-ce que les planètes vont se former autour d'une étoile ou est-ce qu'elles vont se former plutôt autour du couple. Il y avait des collègues, dont notamment Jean Schneider, qui était aussi à l'origine de Corot exoplanète, qui avait même dit ça, mais ça, en vérité, ça pourrait être les cibles à viser pour rechercher les planètes. Hein, parce que, il pensait que la formation planétaire opérait, et si elle opérait, elle devait opérer dans le même plan que les binaires, que les étoiles. Donc si dans le même plan orbital que vos deux étoiles, si vous trouvez une étoile binaire dont le plan orbital est confondu avec votre ligne de visée, vous allez voir les éclipses mutuelles de vos deux étoiles. D'accord ? Donc, si les planètes sont dans le même plan, vous devrez voir aussi se rajouter...
Leurs exoplanètes.
Les transits des planètes. Et bon, il y avait eu un programme comme ça au sol qui n'a pas donné de résultats, malheureusement. Mais là, en fait, Kepler a apporté la réponse. Oui, les planètes se forment autour des étoiles binaires également. Et on a observé, on a les transits des premières planètes circumbinaires, en fait. Et alors, c'est un système assez complexe, parce que vous voyez le transit de la planète par rapport à chacune des étoiles, mais tout le monde est en mouvement.
Oui, ça permet de...
Voilà, le système est très dynamique, une dynamique, j'ai envie de dire, un peu complexe, mais en même temps, ça vous permet d'avoir des estimations des masses des planètes. et des masses des étoiles avec une précision qui est absolument remarquable.
C'était Espace Horizon Inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.